Le Space Cast
avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Le 418-670-9098, c'est le numéro pour rejoindre votre Spacecast. Il se passe quoi que ce soit, autant sur la route, dans vos vies, dans vos cœurs, dans vos opinions. Vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous surtout pas. C'est le fun de vous avoir interactif tout le long de l'émission, puis vous le faites bien. C'est le fun de voir vos lumières là, pendant qu'on jase avec nos différents intervenants. C'est le fun de vous avoir.
Ça nous fait savoir qu'on parle pas dans le vide.
Oui, exact. Toujours pratique. Hein, ça vient trancher une ligne entre ce qu'on est des total schizophrènes ou on fait ça pour quelqu'un.
Oui, que et l'autre fois, un dimanche matin avec Carbo, pendant une heure de temps, le texto marchait pas. On n'avait rien.
Insécurisant.
On se demandait qu'est-ce qu'on faisait.
La radio, c'était un peu ça. Là, tu fais ton spectacle, mais avec les rideaux fermés. Puis deux fois par année, on a des résultats qui nous disent « Ouais, y a-tu du monde derrière le rideau? » Mais on réussit à avoir, via le texto, une espèce d'aperçu.
On entend rire en arrière des
Ouais, c'est ça. Mais là, c'est quand on a de l'isolation. Quand le texto marche pas puis qu'il y a de l'isolation dans la salle, on n'entend plus rire. Là. C'est
ordinaire. La folie nous monte à la tête tranquillement.
Ouais, exactement. Hey, parlant de folie au courant des derniers temps, on a assisté à des montées de violence carrément via l'assassinat de Charlie Kirk et ensuite de ça, même niveau de violence par ces gens qui s'en sont réjouis sur les réseaux sociaux ou même publiquement. Le tout a donné suite à bien des spéculations, à bien des déclarations de part et d'autre, mais la top probablement vient du président américain Donald Trump qui, devant les médias et à la demande de plusieurs, a décidé d'adresser ce que plusieurs demandaient, d'adresser que le regroupement, le mouvement, ou comment les appeler, les Antifa en fait, soit considéré comme une organisation terroriste. Les Antifa, c'est un terme qu'on entend depuis quand même longtemps, même à Québec. Là, ceux qui ont une bonne mémoire vont se souvenir de ce fouteur de merde professionnel qui était venu à Québec, un dénommé Jaggy Singh. À pas confondre avec notre ami Jagmeet Singh, ça c'est pareil. Une autre patente. Mais Jaggy, qui était une espèce de manifestant professionnel, casseur professionnel, est relié à des mouvements comme ça. Mais pour en apprendre davantage, pour comprendre c'est quoi cette affaire-là, parce que et c'est avec ça que je vais commencer aussi, parce que tu sais, si t'es pas antifa, est-ce que t'es donc automatiquement
pro-fa,
donc pro-facho, t'es un facho, c'est tout ça que ça veut dire? Pour essayer de démêler tout ça, on a eu l'idée d'appeler notre ami Alexandre Cormier-Denis de nomos-tv.com. Salut Alex!
Bonsoir à tous, bonsoir au public de Choix Radio, c'est toujours un plaisir d'être là avec vous.
T'es en forme?
Très en forme.
Excellent. Je te pose la question, si t'es pas antifa, est-ce que t'es donc un facho par définition?
Non, exactement comme finalement les gens qui n'étaient pas anticommunistes ou maccartistes n'étaient pas forcément communistes, hein, n'est-ce pas? Tous ces termes anti servent un peu une logique de propagande et il faut un peu faire l'histoire de ce mouvement antifasciste pour comprendre un peu l'entourloupe sémantique. Hein, les premières ligues, évidemment, antifascistes qui se créent se font sous la houlette stalinienne, hein, c'est-à-dire c'est le parti communiste totalitaire de Moscou qui finalement organise la vie des socialistes et des communistes d'une part en Italie, mais également en Allemagne au courant des années 20, puis des années 30, et qui vont se donner le nom d'antifascisme pour masquer le fait qu'eux-mêmes sont des totalitaires bolcheviques et communistes. Et toute cette logique finalement antifasciste, c'est celle d'un affrontement de totalitarismes. Le totalitarisme des communistes, hein, qui, rappelons-le quand même, au 20e siècle, on a tendance à l'oublier parce que les communistes, contrairement aux fascistes, ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Hein. Vous savez ce qu'on dit de l'histoire. L'histoire est racontée par les gagnants. Mm-hmm. Malgré tout, il faut bien comprendre que dans la vision un peu simpliste, un peu hollywoodienne qu'on a de la Seconde Guerre mondiale, hein, la vision un peu Star Wars, hein, il y avait des gentils, il y avait des méchants. En vérité, c'était un petit peu plus complexe que ça parce que Hitler a notamment déclaré la guerre à Staline. Et donc là, je rappelle que 80% des forces allemandes qui sont décédées durant la Deuxième Guerre mondiale sont décédées face à l'armée rouge. C'est-à-dire qu'en vérité, on a eu deux totalitarismes qui se sont affrontés. Et le communisme et le totalitarisme qui a fait le plus de morts au 20e siècle, 90 millions de morts. Donc, en vérité, les ligues, les premières ligues antifascistes qui s'organisent dans les années 20, d'abord en Italie, ensuite dans les années 30, avec la prise de pouvoir, la montée, on va dire, graduelle du Parti national-socialiste allemand hitlérien, en Allemagne, ce sont, en fait, c'est un paravent pour des partis communistes financés et plus que financés, idéologiquement alignés sur l'URSS stalinienne.
Est-ce qu'à l'époque, c'est automatiquement financé? Est-ce que c'est une espèce de police non officielle?
C'est pas nécessairement une police, c'est des activistes politiques radicaux, quoi, en quelque sorte. Hein? Mm-hmm. Et il faut comprendre que les crises économiques de l'époque, finalement, font en sorte que ben il y a de la marge de manœuvre pour des gens à être radicalisés, à la fois dans les mouvements nationalistes de type révolutionnaire comme le fascisme ou le fascisme italien ou le national-socialisme allemand, mais de l'autre côté, entre guillemets, du spectre, il y a aussi beaucoup de place à une radicalisation vers l'extrême gauche où on voit quand même l'URSS comme finalement le summum de l'humanité. Disons que c'est l'époque où le communisme n'est pas encore très, très exposé dans ses crimes. Hein. On connaît peu les crimes staliniens, le goulag, tout le système de purge à l'interne. La terreur stalinienne est peu connue.
On ne s'est pas vanté sur la famine provoquée en Ukraine, là. Pas encore.
Non, exactement. Et il y avait un contrôle de l'information qui était très fort. Il y avait finalement une illusion de la part d'une grande partie de la gauche occidentale sur l'expérience communiste. Et donc, forcément, ben, ça laissait la place à une propagande quand même assez assez forte, en fait, de ces mouvements qui se sont parés de l'antifascisme pour finalement avancer leur pion dans une logique totalitaire communiste et bolchevique, où finalement, faut bien comprendre que c'est des gens qui voulaient pas mettre en place la démocratie représentative et libérale, mais ce qu'ils voulaient mettre en place, c'est une tyrannie communiste sur le modèle stalinien. Donc, c'est très important de comprendre ça parce que sinon, justement, on tombe dans une espèce de logique un peu binaire. Hein. C'est ce que je vois parfois sur les réseaux sociaux. Mais si vous n'êtes pas antifa, si vous n'êtes pas antifasciste, ben, forcément, ben, vous êtes fasciste. Quoi. C'est-à-dire que tout le monde doit être antifasciste. Ben, non, en fait. C'est-à-dire que la logique des... Et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde les organisations qui se réclament de l'antifascisme, les gens qui militent, se revendiquent d'actions antifascistes. En vérité, quand on gratte un peu, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mouvements? Il y a des mouvements anarchistes, il y a des mouvements marxistes-léninistes, ou un mélange des deux, anarcho-communistes, qui finalement prônent quoi? Ben, l'action directe. Qu'est-ce que c'est que l'action directe? C'est par exemple des actions de sabotage, hein, c'est des actions de vandalisme, mm-hmm. c'est des tactiques de manifestation qui sont hors de la légalité, comme les Black Blocs. Hein, vous savez, ces gens qui s'habillent en noir,
oui.
Ils sont tous habillés pareil, masqués dans les manifestations et font de la casse pour créer du trouble et finalement, dans l'espoir que les mobilisations, soit étudiantes, soit les mobilisations populaires, mènent à un climat révolutionnaire pour voilà, changer les choses, prendre le pouvoir sur, on va dire, le modèle plus ou moins clair là, des révolutions du 20e siècle, des révolutions socialistes du 20e siècle.
Est-ce que les Black Blocs sont une unité, si on veut, des Antifa ou bien ce sont deux groupes qui partagent juste la même idéologie, donc des partenaires utiles?
Je dirais que c'est plus un mode d'action, les Black Blocs.
OK.
Hein, y a pas d'entité enregistrée au registraire des entreprises du Québec, là, les Black Blocs.
Non. Okay.
Donc, c'est des militants. Et en Europe, il est vrai qu'on a déjà vu ces tactiques utilisées par différents courants. C'est-à-dire, il y a des gens de l'ultra-droite qui peuvent aussi prendre les tactiques des Black Blocs, se mélanger finalement à la case d'extrême-gauche pour créer le chaos, en quelque sorte.
Okay.
Donc, mais grosso modo, c'est plutôt, on va le dire quand même, surtout au Québec, et je dirais en Amérique du Nord, plutôt l'apanage des mouvements de la droite, de la gauche, pardon, de la gauche radicale, anticapitaliste, marxisante ou anarchiste.
Est-ce que ce sont ces gens-là qui décident d'appartenir à ce groupe-là ou bien ça peut venir de... Parce que ça peut être... Si on pense dans une vue géopolitique pour un État ailleurs, un État étranger, ça pourrait être bon comme moyen de perturbation interne d'un autre pays de financer ces groupes-là. Est-ce que je suis en pure folie là, actuellement, ou ça peut être ça, entre autres, aux États-Unis? Est-ce que les mouvements Antifa peuvent avoir du financement qui vient de l'extérieur?
Ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut venir de l'intérieur aussi, hein, parce que finalement, il y a des gens à l'intérieur de la société américaine qui sont opposés au régime actuel, qui veulent une société ouverte, qui sont opposés aux frontières. Et donc, oui, il y a toute une gamme, hein, finalement, d'organisations, d'ONG, plus ou moins humanitaires, en tout cas, qui se revêtent, finalement, d'une sorte de vertu, là, d'ouverture à l'autre, etc., qui peuvent, en effet, être liées au financement de groupes qui, bien que n'étant pas ouvertement dans l'extra-légalité, hein, hors du droit, se rapproche quand même d'une forme de radicalité idéologique et ont une porosité, on va dire, de militance avec les mouvements antifascistes violents. Je rappelle qu'aux États-Unis, par exemple, il y a eu des agents du ICE, hein, le département qui vise à aller arrêter les migrants illégaux et les retourner chez eux.
À les attraper tous.
À les attraper tous, oui, c'est ça. Attraper les tous comme des gentils Pokémon. Mais ils sont un peu moins gentils, parfois très criminogènes. Donc, il y a des agents de cette agence gouvernementale qui ont été abattus par balles par des antifas. Donc, il faut comprendre qu'on est quand même dans une forme de radicalité assez intense.
Absolument.
Alors, évidemment, oui. Vous allez me dire, on est aux États-Unis, de la radicalité, il y en a toujours eu, politiquement. Martin Luther King a été assassiné, les deux Kennedy dans les années 60. Donc, c'est pas nouveau non plus qu'il y ait de la violence politique aux États-Unis. C'est vrai, c'est totalement vrai, mais disons que ça ne nous épargne pas de faire une sorte de critique et de poser un regard critique sur cette hyper-radicalité de la gauche qui, il faut le dire, je pense, parfois se convainc ou peut se convaincre de sa propre propagande. C'est-à-dire qu'à force de nous dire Trump, c'est Hitler, tout ce qui est un peu à la gauche, finalement, tout ce qui est à la droite, pardon, du Parti démocrate, ben, c'est un peu du crypto-fascisme, voire du fascisme réel. Ben, forcément, peut-être que les hauts cadres, les intellectuels et les hauts cadres du Parti démocrate aux États-Unis, et même chez nous, hein, c'est-à-dire que chez nous, des intellectuels, des gens dans les médias, des journalistes, des universitaires peuvent utiliser ce discours-là en se disant, bon, on sait très bien que Trump, c'est quand même pas une dictature fasciste, on sait très bien que Poilievre, c'est pas un fasciste, on sait très bien que Legault, même s'il critique l'immigration, c'est pas non plus le fascisme. Je rappelle quand même ce qu'est le fascisme. C'est la volonté de mettre en place un État totalitaire qui fusionne l'individu, le parti unique, la société civile et l'État dans un même ensemble, OK? Mmh. Où on ne laisse pas de place à la société civile, ni au multipartisme, ni à des médias indépendants, ni à quoi que ce soit qui ne soit pas régimenté par le parti-État. Ce qui fait notamment ça que, rapidement, les partis fascistes, donc soit italiens, alors pour l'Italie, c'est un peu particulier parce qu'ils vont réussir à s'entendre avec Rome, mais pour ce qui est avec la papauté, mais pour le national-socialisme italien, qui rentre tout de suite en contradiction avec les religions organisées, avec le christianisme, notamment. Pourquoi? Mais parce que même dans l'intimité de la foi, le fascisme, et dans sa version radicalisée national-socialiste, vise à implanter une doctrine et qui rentre en contradiction avec le christianisme. Donc, c'est pour vous dire à quel point on est dans des logiques totalitaires. Et bien sûr, ça nous fait penser à d'autres expériences totalitaires, comme le maoïsme en Chine, avec le petit livre rouge, hein. Mao nous disait ben, même quand vous faites l'amour, vous devez penser à la révolution, quoi. C'est-à-dire, on rentre jusque dans la... Là, c'est le cas de le dire. La chambre à coucher chez des gens pour leur intimer quel doit être leur comportement. Et évidemment, des régimes, on va dire, moins totalitaires, mais quand même extrêmement proches, je dirais, de la radicalité maoïste, comme les années vraiment dures à Cuba, c'était la même chose. C'était une surveillance totale et absolue de la société civile. Donc, le totalitarisme, c'est quelque chose qui est partagé par surtout le national-socialisme allemand, je dirais même plus que le fascisme italien, et les régimes communistes. Et c'est toujours ça dont il faut se rappeler quand on nous parle des antifas. C'est-à-dire qu'en fait, on a des totalitaires d'extrême-gauche qui instrumentalisent une lutte contre un autre totalitarisme, entre guillemets, de droite, hein, parce que même là, on pourrait faire la critique en se disant que le fascisme n'est pas vraiment une idéologie de droite, que c'est une idéologie de tout État, et que Mussolini était un syndicaliste, Hitler était un socialiste. Donc, on pourrait même faire une critique en disant que peut-être que le fascisme est une idéologie de gauche. Je veux pas rentrer là-dedans, mais disons hein, que c'est une idéologie totalitaire de droite. Faut pas oublier que les gens qui dénoncent ça sont eux-mêmes, les antifas,
des totalitaires
de gauche.
Mm-hmm.
Voilà.
Est-ce que les antifas ont des têtes dirigeantes, des figures emblématiques à travers le monde? Pas nécessairement au Québec, mais disons aux États-Unis. Est-ce que, parce que jusqu'à récemment, c'était pas criminel d'être associé aux antifas, est-ce qu'ils ont des leaders, des porte-paroles, ou c'est tout le temps plus dans l'ombre?
Oui, ben, ils ont des penseurs. Parce que quand on gratte, finalement, qu'est-ce qu'on a derrière ça? On a l'anarchisme, donc on a les grands penseurs anarchistes, Bakounine, etc. On a Proudhon, à la limite. Bon, on a des gens qui même, théorisent la violence révolutionnaire. Très rapidement, vous allez tomber dans Marx. Très rapidement, vous allez tomber dans la justification, finalement, de la violence politique pour mener à la révolution qui va mener à l'abolition des classes sociales, la fin de la superstructure capitaliste et l'amour entre tous, n'est-ce pas, et la dictature des travailleurs ou l'utopie anarchiste. Hein, on détruit l'État et puis là, soudainement, il n'y a plus de hiérarchie entre nous. Et ça fait en sorte qu'on s'autogère comme ça, de façon totalement merveilleuse et sans conflit, alors que toutes les expériences finalement anarchistes et ou communistes se sont révélées se terminer en catastrophe absolue. Hein.
Pas donc, tellement ça qui arrive, hein. Ouais, non, c'est ça, l'amour répandu égal, là, c'est pas vraiment ça qui est arrivé.
Ben non, disons que le 20e siècle nous prouve plutôt l'inverse. Hein. C'est-à-dire que pour parvenir à cette société sans classe, ben finalement, il faut mener une guerre des classes. Et pour mener cette guerre des classes, ben, il faut supprimer physiquement les gens qui sont pas d'accord avec cette révolution. Donc ça nous mène à quoi? Ça nous mène au goulag, ça nous mène au camp de la mort, ça nous mène à fusiller littéralement des gens, hein, comme Guevara qui fusille les petits propriétaires terriens à Cuba pour répartir l'État. Enfin bref, à des absurdités folles, en fait, à une logique criminelle, hein, une logique totalitaire et criminelle, mais au nom du bien de l'humanité, de l'amour entre les gens et du peuple. Donc, je dirais que pour ce qui est des figures, oui, il y a des figures, il y a aussi des tactiques, des manifestes, hein, le manifeste antifa, où finalement, on prône quoi? La violence physique envers des opposants, et c'est ça tout le génie rhétorique des opposants qui sont fascistes. Hein, qu'est-ce qu'on veut? C'est le fameux slogan antifasciste, on ne débat pas avec les fascistes, on les combat.
Mm-hmm. Oui, mais souvent, exactement. Ils ont des slogans comme « punch your local nazi » et des affaires de même. Là.
Oui, exactement. Donc, la violence politique. Ça, et là, vous vous dites « OK, mais oui, bien sûr, hein, on a fait nous, les démocraties libérales, on a fait la lutte contre la Seconde Guerre mondiale. » Donc, en vérité, il est logique, c'est comme la tradition occidentale, de faire la guerre aux fascistes. Parce que c'est ce qu'on a fait dans les années 1939, en tout cas, hein, pour les États-Unis en 1942, déclaration de guerre de l'Allemagne. Aux États-Unis en 1942, déclaration de guerre du Canada à l'Allemagne en 1939. Mais il faut bien comprendre que, évidemment, si vous déclarez quiconque est à la droite de François Legault comme un crypto-fasciste ou un fasciste, ben vous allez vous retrouver avec beaucoup d'adversaires politiques de droite qui sont des fachos.
Oui, oui, bien.
Et c'est là un peu le problème. C'est une stratégie rhétorique. Et c'est une stratégie rhétorique qui est très connue dans le monde communiste. C'est ce que Staline disait lui-même. Pendant que vous traitez votre adversaire de fasciste, il se défend de ne pas être fasciste. Et qu'est-ce que vous faites, vous? Vous avancez vos pions.
Ouais, donc, ton collègue Philippe Plamondon a une bonne expression aussi. Ça déshumanise la personne. Donc, la personne qui doit se débattre en disant « Je suis pas un nazi », mais pendant ce temps-là, le commun des mortels n'a pas de sympathie pour un nazi. Fait que le nazi qui trouve des excuses, ça vient pas faire pleurer grand monde.
Exactement. Et c'est facile de nazifier l'autre. Ah, quoi? Un peu critique de l'immigration? Vous remettez en cause la théorie du genre, donc c'est la haine. Vous avez des doutes sur les avortements en fin de troisième trimestre, voilà, 9 mois. Bon, ben en gros, vous êtes un facho, quoi. Facho. Donc, c'est l'extension infinie du règne du fascisme. Et ça nous mène à des absurdités où, je veux dire, l'extrême-gauche est convaincue que Charlie Kirk était fasciste, quoi. C'est-à-dire, il faut quand même redescendre sur terre de seconde. Charlie Kirk était un chrétien évangélique pro-vie. Le régime national-socialiste allemand, c'est un régime qui a opéré, la mise en dessin, finalement, l'euthanasie non pas volontaire, hein, l'allemand, le gazage.
Mm-hmm. On les sentait pas très pourvis, hein? Non.
Non, mais la mise à mort de malades mentaux, d'handicapés mentaux allemands. On parle même pas de la question juive, on parle même pas de la question tzigane. Dans une logique eugéniste, pour purifier la race aryenne. Ce qui est complètement à l'opposé de la logique pro-vie chrétienne. Et d'ailleurs, dans les années 30, hein, Hitler prend le pouvoir en 33, qui s'oppose à ça dans la société allemande? L'Église catholique. Donc, ah ouais. Les chrétiens vont s'opposer à la logique eugéniste national-socialiste allemande. Donc, c'est pour vous dire que ces gens qui traitent un chrétien évangélique conservateur, est-ce que Charlie Kirk était conservateur? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on pourrait même dire qu'il était ultra-conservateur? Peut-être. En effet, on pourrait en débattre. Mais ça ne fait pas de lui un national-socialiste allemand. Comprenez?
Oui.
Et là, ça, c'est un gros problème. Parce qu'évidemment, ça explique aussi une réaction de une grande partie de la droite. Il y a combien de chrétiens évangéliques aux États-Unis? 100 millions? Je veux dire, évidemment que ces gens-là ont été horrifiés quand ils se sont rendus compte que non seulement la gauche, c'est-à-dire au mieux, nuançait sa mort en disant « Bon, oui, mais il a quand même un peu cherché, il était pour le second amendement. Bon, »
Il s'est magasiné ça un peu, hein? On l'a entendu beaucoup. Là.
Oui, mais attendez, être pour le second amendement, c'est pas être en faveur des assassinats politiques. C'est pas la même chose. Mm-hmm. Posséder une arme pour défendre sa propriété, c'est une chose. Assassiner ses opposants politiques, on est dans un autre, tout autre registre. Et Charlie Kirk, que faisait-il? Est-ce qu'il mettait en place des ligues fascistes pour casser la gueule des communistes dans une université américaine? Non.
Il jasait avec des madames chubbées aux cheveux bleus. Ben, là.
Je peux vous garantir qu'Hitler, en 1933, et Mussolini, en 1922, ils ne débattaient pas avec des communistes.
Non.
Ils leur cassaient la gueule avec leurs chemises noires et leurs chemises brunes. Et ça, c'est quand ils étaient gentils. Parce que ça finissait en fusillade, plutôt. Comprenez?
Ouais.
Donc, quand on nous dit qu'il y a des gens qui utilisent la voie démocratique, le débat d'idées, et que ces gens-là, en fait, sont des nazis et des fachos, mais c'est qu'on a complètement perdu le Nord, en fait.
Si on regarde au Québec... Oui, vas-y, excuse.
Non, mais ce qui est en train de se passer aux États-Unis, pourquoi la droite est furieuse, c'est qu'elle se dit, OK, mais en fait, si on débat, même quand on veut débattre avec vous, qu'on va sur les campus universitaires, qu'on débat, ce que vous ne faites jamais, hein, elle est où, la gauche, pour débattre avec la droite?
Non.
Elle n'est pas là. Elle censure. Elle utilise, finalement, la culture de l'annulation.
Elle
ne veut pas débattre. Hein, c'est la droite qui veut débattre. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus sûre de ses idées. Parce que la droite, finalement, c'est quoi un homme et une femme? Tandis que les gars d'en face, ils savent plus vraiment ce que c'est. C'est un spectre, c'est flou, c'est la confusion totale, hein, chez ces gens.
Ouais, gens qui ont omis de prendre le médicament. J'aimerais ça, avant qu'on se laisse, qu'on regarde aussi au Québec. Au Québec, là, le mouvement Antifa, est-ce que c'est une série petit clin avec des boucles de ceinture de Che Guevara ou c'est plus organisé que ça?
Ben, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a une hyper-radicalité d'un côté, il y a des gens formés, on va dire idéologiquement, à travers les universités de gauche, il y a des professeurs d'universités de gauche qui sont appartiennent ouvertement à la mouvance Antifa, ils portent des t-shirts Antifa, ils ont des drapeaux Antifa dans leurs locaux universitaires, donc c'est totalement revendiqué, là. Mm-hmm. Et bien sûr, ben, ça infuse la vie universitaire québécoise, hein, qui est assez gangrénée, finalement, par l'extrême-gauche, il faut le dire quand même, certaines universités plus que d'autres. Et donc, ben, c'est un foyer de radicalisation de l'extrême-gauche, ça, c'est évident. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils font, ces professeurs payés 180 000 par année pour être, finalement, des anarchistes payés par l'État? Hein, c'est merveilleux, hein, à l'extrême-gauche. Hein, les anarchistes payés par l'État, par nos taxes et nos impôts, pour radicaliser la jeunesse, qui, eux, vont traiter, évidemment, tout le monde de fachos, se masquer, faire des actions coup de poing, faire des actions extra-légales. Moi, j'ai assisté quand même à des choses à l'époque de la meute où on a carrément des milices antifa qui ont cassé la gueule de boomers qui portaient des drapeaux du Québec et des drapeaux patriotes.
Ou juste en fin de semaine.
Des fascistes.
Alex, juste en fin de semaine, ici à Québec, des gens qui voulaient faire une marche pour l'indépendance du Québec, c'est Plaine d'Abraham. On est en mode assez relax, là, les Plaines d'Abraham. On s'entend, là, c'est des kids qui font des pique-niques avec leur famille. Là, c'est assez calme. Et on a eu droit à une séance d'entourement. On a entouré ces gens-là en étant à peine voilés menaçants, là.
Et je rappelle que était présent un député de Québec solidaire.
Oui, M. Grandmont. Hein,
le député de Tachaud, donc qui a remplacé Catherine Dorion, ainsi que des gens de l'organisation Oui Québec. Donc, des gens qui sont censés rassembler les souverainistes.
Oui,
visiblement, ils ne veulent pas les souverainistes de droite. Hein.
Visiblement, non.
Ils aiment les souverainistes, en guillemets, quand c'est l'extrême-gauche, quand c'est QS, quand c'est anarcho-bolchevique, hein? Quand c'est communiste, là, il n'y a pas de problème. Si vous êtes un peu trop à droite pour eux, ah ben là, c'est un problème. Et je rappelle quand même, je rappelle à tous ces gens-là qui se réclament de souverainisme de gauche, hein, qui s'allient aux milices anarcho-bolcheviques violentes, je rappelle qu'ils défendent quand même un drapeau où il y a une croix du Christ, hein, et des fleurs de lys de la monarchie française. C'est un drapeau qui, je dirais, dans son symbolisme même, est un drapeau historique de droite, catholique, enraciné dans l'histoire de la Nouvelle-France. Hein. C'est pas une fossée, il y a un marteau qu'on a sur le drapeau du Québec. Donc, à un moment donné, moi, les souverainistes complètement, comment je dirais, post-modernes, radicalisés par la gauche, essaient de nous faire croire qu'en fait, le fondement du nationalisme québécois, c'est les milices anarcho-bolcheviques et l'alliance avec eux, je leur dirais quand même d'aller faire d'aller revoir un peu leur livre d'histoire. Hein.
Ouais.
C'est un peu pathétique ce à quoi on a assisté. Maintenant, je vous le dis, il faut bien comprendre que si on avait le quart du huitième d'une extrême droite imaginaire qui n'existe pas au Québec, faisait ce que les Antifa font et toute la mouvance pro-palestinienne, parce que tout ça est interconnecté, mouvance pro-palestinienne, Black Bloc, collectif contre la brutalité policière, tout ce qui grenouille autour de l'extrême-gauche...
BLM?
Black Lives Matter, tout ça trempe dans les mêmes eaux. Les eaux de l'extrême-gauche radicale qui considère qu'elle est légitime moralement d'utiliser des moyens extra-légaux, notamment l'émeute, notamment le doxing, notamment la violence physique, pour parvenir à ses fins. OK? Et ça, c'est possible. Pourquoi? C'est possible parce que ces gens ont gagné le combat culturel. Si on avait le quart du huitième qui était fait par des gens d'une extrême droite qui n'existe pas au Québec, on aurait une hystérie collective en nous disant que c'est la montée du fascisme, des ligues fascistes de l'extrême droite. Mais quand c'est l'extrême gauche qui le fait, c'est pas grave. C'est sympathique. C'est l'extrême gauche.
Mmh.
Elle a le droit parce qu'elle a gagné le combat culturel. La gauche, c'est le bien. La droite, c'est le mal, et toujours on est toujours des soupçons hein, autour de la droite. Hein, voilà, quand même, des gens, la droite, il faut que ça fasse attention. Et moi, je pense que ce qui est en train de se passer avec... C'est pas seulement l'assassinat de Charlie Kirk, c'est la réaction de la gauche.
Ouais.
La réaction de la gauche qui va de « Oh, ben, oui, mais... Hein, » C'est « oui, mais... » C'est de « oui, mais » jusqu'à « je rigole ». Je rigole et je fais des vidéos de TikTok en me disant que c'est merveilleux, en fait, son assassinat.
Des dessins de Charlie Kirk assassiné en mode humoristique, comme si c'était pas complètement déplacé.
Oui, parce que c'est un facho. Et qu'est-ce qu'on fait avec les fachos? On ne discute pas avec eux.
Ouais, sa vie don't matter. J'ai lu ça, là. Facho life don't matter.
Ben, exactement. Donc, en fait, on peut buter tous les gens qu'on considère fascistes, peu importe qu'ils le soient ou pas. On ne sait pas vraiment ce que c'est par ailleurs. On n'a jamais étudié le fascisme. On ne sait pas faire la différence entre un chrétien évangélique et un facho. Et Mussolini, toi, pour eux, c'est toute la même chose. Et pourquoi pas, est-ce qu'on veut pas les buter? Bon, mais dans ce contexte-là, je pense qu'on assiste à une sorte de renversement un petit peu, en tout cas le début d'un renversement de la charge morale. Parce qu'en vérité, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que la gauche est en train de perdre l'hégémonie culturelle.
Mmh.
Comme elle est en train de perdre, elle panique et elle se radicalise.
Est-ce que tu crois que la décision de Trump peut emmener une pression sur le territoire canadien? Ou je rêve en couleur?
Je pense que tu as raison, mon cher Jean-Francis, pour une raison très simple, c'est qu'en vérité, on a très bien vu que tout ce baratin de Carney sur les coudes levés, on va lever les coudes, hein, elbows up, tout ça se finit en les genoux par terre.
Coucher tapis.
Nous sommes le Canada, moi je ne suis pas un grand fédéraliste canadien, là, mais je constate à mon corps défendant que le Québec fait partie de la Fédération canadienne, donc le Canada est un État vassal des États-Unis. Et en vérité, le Canada veut ce libre-échange avec les États-Unis, veut l'absence, finalement, de frontières réelles. Hein, c'est-à-dire, on a des frontières, mais surtout pas pour le commerce. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va se plier aux demandes américaines, comme Carney s'est plié aux demandes géopolitiques, géostratégiques, sur le Dôme doré. On a dit oui, pas de problème, on va participer. Vous voulez qu'on augmente notre budget militaire? On va le faire. Oui, monsieur l'empereur, on se soumet à vous. Donc, en vérité, que décide l'empereur d'Occident, Trump, ben c'est quand même suivi des faits chez nous. Et là, on peut tout poser, hein, parce que on pense toujours à la question de la souveraineté du Québec, le séparatisme québécois, et jamais on se pose la question de la souveraineté du Canada. Ça s'est plus posé avec la question de l'annexion. Et là, je pense qu'en effet, sur la question de la souveraineté canadienne, ben on voit que cette souveraineté est en réalité une souveraineté limitée. Mm-hmm. Donc, il est fort possible que si jamais il y a une pression américaine sur le Canada en disant, ben, en fait, vous êtes un peu la base arrière de l'extrême-gauche en Amérique du Nord, et il va falloir que ça cesse, c'est possible qu'il y ait des conséquences chez nous. C'est fort possible.
Espérons-le, mon cher Alexandre. Un gros merci pour les minutes que tu nous as données ce soir. Très apprécié. Si les gens veulent te suivre, toi et nos deux collaborateurs également dans l'émission, Sébastien de Crèvecœur et Philippe Plamondon, tout ça se passe sur nomos-tv.com.
Oui, exactement, nomos-tv.com. Et pour les gens qui veulent me suivre, je suis assez actif sur X, l'ex-Twitter, n'est-ce pas, d'Elon Musk. Vous pouvez me suivre à Cormier D, Alexandre Cormier-Denis sur X. C'est assez présent. Et voilà, venez nous voir en grand nombre.
Comment ça se passe sur Frontières, hein?
Oui, très bien. Voilà, je collabore maintenant avec un média français qui se veut un média qui rassemble les droites françaises, donc un média qui s'appelle Frontières, qui font des vidéos d'ailleurs de très bonne qualité, du reportage terrain. Ils s'en vont voir, par exemple, les routes d'immigration illégale dans les Balkans, dans la Méditerranée, ils s'en vont jusqu'au Sénégal. En fait, c'est très, très bon ce qu'ils font.
Anciennement Livre Noir. Anciennement Livre Noir, c'est bien ça?
Oui, exactement. Anciennement Livre Noir. Donc, l'ancienne chaîne YouTube Livre Noir est maintenant Frontières, un média de très, très bonne qualité. Et je dois dire, malheureusement, je suis assez jaloux. J'aimerais qu'on ait ce genre de média au Québec. Mais évidemment, la France, ils ont 60 millions, ils ont du budget. Il y a aussi une droite très, très structurée au niveau économique et au niveau, comment je dirais, même des organisations qu'on n'a pas au Québec, là, pour des raisons historiques. Donc, c'est quelque chose, possiblement, dont on pourrait s'inspirer éventuellement. Pour les Québécois qui sont intéressés par ces questions migratoires, qui regardent quand même ce qui se passe en Europe, hein, je rappelle qu'on peut se dire, oui, la France, c'est loin, ça ne nous concerne pas. Oui, mais vous savez, ça annonce peut-être ce qu'on va vivre chez nous.
Oui, hein?
Donc, c'est bien de regarder là-bas un petit peu, parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets.
Ben, je déteste ramener tout à la pandémie, parce que je trouve que c'est un peu un réflexe retardé, là, mais quand on regarde pendant la pandémie, on voyait le virus agir, puis deux semaines plus tard, on l'avait. Ça peut peut-être être annonciateur aussi dans d'autres domaines.
Oui, ben, surtout vu les politiques migratoires et nos sélections qui sont assez semblables, Québec et France. Donc, en fait, les conséquences de ce que vit la France depuis 40 ans en termes d'immigration, c'est peut-être ce qu'on se magasine au Québec. Donc, il faut aussi tenir ça en compte et regarder quels ont été les mauvais choix de la cité française. Et je dirais globalement européenne, hein? Regardez ce qui se passe à Londres, regardez ce qui se passe à Bruxelles, voilà. Donc, oui, il faut toujours regarder, avoir un œil sur ce qui se passe aux États-Unis. Bien sûr, c'est l'hyperpuissance culturelle, mais également regarder ce qui se passe en Europe.
Yes. Allez, merci beaucoup, Alexandre.
Ben, c'est un plaisir. Merci à vous et bonne soirée.
À la prochaine, mon ami. Merci beaucoup. Bye-bye. C'était Alexandre Cormier-Denis de nomos-tv.com avec qui j'aime toujours discuter. Ça faisait un petit bout qu'on ne l'avait pas eu sur l'émission. Puis sur ces sujets-là, il est, comme vous le dites sur le texto, directement sur le target. On fait une courte pause. Le Spacecast est avec vous jusqu'à 22h.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.